Rencontre en première partie avec un monstre sacré de l'art de la comédie. Il joue dans un film d'Elie Chouraki qui est sorti cette semaine, mais c'est au tour du deuxième volume des CD que son ami Georges Verlaire a réalisé à partir de ses cours au conservatoire que nous l'avons rencontré. Le premier volume, paru en 2006, portait sur l'art de l'acteur. 10 ans plus tard, ce nouveau coffret de 2 CD parle des auteurs, des pièces et des personnages. On y croise Molière, Marivaux, Feydeau, Pinter, Corneille, Shakespeare, Beckett. Monsieur Bouquet y applique son art du théâtre, un art qui pour lui passe par une profonde compréhension des œuvres. Bonjour Michel Bouquet.
Bonjour.
1986-1987, c'est cette année de cours dont parle ce deuxième volume du coffret de CD qui sort aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de cette année-là du conservatoire?
Ah oui. Ah, tout à fait, oui.
Ah, pourquoi oui, cette année précisément?
C'est ces 10 années que j'ai passées là ont été très, très importantes pour moi parce que je me suis confronté à l'idée de trouver une réponse aux questions qui m'étaient posées par les élèves. Donc j'ai essayé de répondre aux élèves et de les promouvoir à cette carrière énorme que représente la carrière d'un acteur, à cette difficulté, et alors j'ai été obligé de chercher en moi-même ce que j'avais éprouvé, ce que j'avais pensé, et de confronter ça avec eux, mais qui étaient d'une génération quand même assez différente de la mienne. Forcément, si je professais maintenant, ce serait encore plus terrible de me confronter à eux, parce que je serais vraiment très différent, comme un dinosaure. Oui, ça serait très, très différent, j'aurais beaucoup de mal. Déjà, à ce moment-là, j'ai eu du mal, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire.
Est-ce que en 10 ans de cours au conservatoire, les élèves vous ont appris quelque chose en retour sur votre propre art de la comédie?
J'ai appris, si vous voulez, à me conforter dans ce que j'en pensais. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Je considérais qu'il fallait que je sois sûr de ce que je pensais de mon métier. Et ces 10 années m'ont appris à en être de plus en plus convaincu. Et il y avait une mode très différente. C'était l'époque d'un certain libéralisme qui n'a cessé de grandir. Et de grandir et de devenir peut-être, souvent l'assassin possible de l'art, de la comédie. Parce que les gens se préoccupaient de ce qu'ils en pensaient, mais ce qu'ils en pensaient, c'était pas forcément très intéressant. Il fallait leur faire comprendre que ce qu'en pensait l'auteur, ça c'était beaucoup plus important, beaucoup plus nécessaire. Parce qu'une œuvre à sa stabilité, en quelque sorte, elle porte sa stabilité. Et si les gens s'égarent, si vous voulez, et ne tiennent pas compte de cette stabilité de pensée, alors à ce moment-là, ils détruisent l'arbre sur lequel ils se sont accrochés. Et ça fait une catastrophe. Mon cas de conscience a toujours été, comme j'ai été, moi, un enfant de la guerre, j'ai vu le début de cette guerre. J'avais 14 ans à l'époque, quand je suis sorti de pension, j'avais 7 ans de pension derrière moi, assez dur, et puis je suis tombé sur la guerre après. Alors, de 7 jusqu'à 20 ans, si vous voulez, j'ai eu le temps de me confronter au pire. Comme confronté au pire, j'ai essayé de trouver en moi ce que le pire m'avait apporté. Et alors le pire vous apporte toujours quelque chose, vous apporte quelque chose de très important. Et alors j'ai essayé de leur faire comprendre que, mon Dieu, les choses n'étaient pas si simples qu'ils pouvaient le penser, et que le refuge, enfin le bon port pour amarrer le vaisseau, c'était l'auteur. C'est lui qui est important, le plus important. C'est pas ce qu'on en pense, c'est ce qu'il en pense, lui, qu'il faut trouver.
L'auteur plus que le texte lui-même ?
Ah oui, l'auteur, la vie de l'auteur, oui, est très importante, mais très importante. Il faut la connaître, il faut savoir qui était cet homme, qui paraît être comme tout le monde et qui est si personnel, si et c'est son point de vue, si vous voulez, c'est son point de vue qui est important. Si vous parlez de Molière, par exemple, forcément, on a l'impression qu'on peut considérer que ce côté ouvrier apparent de Molière, comme ça, qui va dans les provinces, qui monte son décor toujours avec ses comédiens, et qui est ce côté ouvrier, ce côté artisan, et le c'est la pire idée qu'on peut avoir de lui. C'est la pire idée. Il faut toujours se considérer qu'on est incapable de comprendre la personne qui a écrit le chef-d'œuvre. Alors, il ne faut pas l'accommoder à sa sauce. Je veux dire, c'est très, très... Enfin, ça a été notre souci à Georges et à moi. C'était notre souci de dire, attention, cerveau tout à fait incomparable, tout à fait expérience de la vie tout à fait unique. Alors, concentrons-nous sur ce qu'a été la vie de Molière, essayons de nous faire le portrait exact, et après, on pourra penser peut-être à le jouer.
Michel Bouquet, parmi les élèves que vous avez eus, cette année 1986-1987, puisque les documents qui sont rassemblés sur ce double coffret sont des documents inédits de cette année 1986-87, vous aviez comme élèves Anne Brochet, Maria de Medeiros, Patrick Pinault ou encore Denis Podalydès. Est-ce que vous vous souvenez d'un de ces élèves plus que d'autres, et peut-être même parmi ceux que j'ai cités, d'autres que je n'ai pas cités comme étant des élèves qui n'ont peut-être pas percé, qui ne sont pas venus connus? Est-ce que certains d'entre eux vous ont semblé vraiment comprendre ce que vous leur disiez? Et finalement,
je ne me suis pas posé la question, très honnêtement. Je ne me suis pas posé la question de savoir si ça parvenait aux élèves. Je me suis dit simplement, disons ce qu'on a à dire. Moi, je suis comme un camarade avec eux. Je suis tout à fait familier avec eux. Je les aime beaucoup. Mais je leur dis ce que j'en pense. Mais je dis surtout, ne retenez pas ce que vous pensez ne pas avoir à retenir. C'est évident, ça.
Le conservatoire, c'est le meilleur endroit pour apprendre à jouer?
Bah, pourquoi pas? Il y a toujours, tous les endroits sont bons pour apprendre. La chambre que l'on occupe avec le chef-d'œuvre que l'on lit, on est tout seul avec un tas de choses qui ne sont pas normales, qui sont difficiles à pénétrer, qui sont difficiles à comprendre. Il y a le monde entier autour de soi qui est très difficile à comprendre et qui ne peut être compris que quand on souffre et quand on essaie de trouver la logique de tout ça, et puis qu'on ne la trouve pas. Comment dirais-je, la pensée la plus solide qu'on puisse avoir en soi, elle se trouve écroulée par le contact avec le monde. On doute de tout, de soi et de tout. On doute de tout. Et là-dedans, il faut trouver son chemin quand même. C'est-à-dire, c'est très difficile. L'acteur est un témoin, n'est-ce pas? C'est un monsieur qui est là pour les autres. Il est un reflet de tous les autres qui sont dans la salle. Il n'est pas en soi intéressant. Il est le reflet.
Il y a deux types de comédiens, cela dit, si on doit juste le réduire à deux. Il y en a bien sûr mille possibles, mais disons... Disons deux pour faciliter la question, Michel Bouquet. On pourrait dire qu'il y en a un qui, justement, a une personnalité très, très forte de lui-même, au risque, parfois, qu'on se dise, on voit jouer ce comédien parce qu'on a l'impression que c'est lui-même qui est sur scène ou qui est à l'écran, si on parle du cinéma. Et puis, il y a justement peut-être ce comédien qui correspond un peu plus à votre conception des choses, qui s'efface pour faire naître à chaque fois un personnage nouveau. Oui. Ce serait plutôt ce type de comédien-là qui serait votre...
C'est pas pour faire un personnage nouveau, c'est parce que c'est nouveau. Et ce nouveau correspond à quelque chose des gens qui sont là. Ils le connaissent, ce nouveau. Alors, il faut en quelque sorte mettre un peu d'ordre dans sa pensée. Il faut mettre un peu d'ordre pour savoir que c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est le contact avec quelque chose de plus haut qu'eux, de plus important qu'eux. Et ça rend très humble. Et c'est comme ça, c'est la meilleure solution pour parvenir à se faire entendre en tant que... c'est d'être le représentant, le comptable, si vous voulez, le comptable de la pensée d'un esprit supérieur qui a écrit le chef-d'œuvre. Et il faut être en contact avec ça par rapport à son époque, par rapport aux gens qui sont là. Et c'est tout un travail, mais la personnalité de l'acteur, si vous voulez, n'a rien à voir dans tout ça. On s'en moque un peu. Non, ce qui est, c'est le travail qu'il a fait sur le chef-d'œuvre.
Est-ce que ce que vous dites est aussi valable pour le cinéma?
Oh bah oui, pourquoi pas, c'est aussi valable pour le cinéma, oui. Monsieur Gabin réfléchit beaucoup à ce qu'il fait. Moi j'ai eu le privilège de passer 8 jours avec lui, où nous avons dîné tous les soirs ensemble et on a parlé beaucoup de ça. Et Monsieur Gabin se tourmentait à l'idée de ne pas avoir compris, alors qu'on croit qu'il arrivait et puis que tout se faisait naturellement. Non, vraiment, il était angoissé au dernier degré. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi angoissé que lui.
C'est ce que vous avez vraiment défendu tout au long, non seulement de votre carrière, Michel Bouquet, mais de ces 10 années de cours au conservatoire. C'est l'idée que jouer, c'est un travail, que jouer, c'est un art et donc un savoir-faire qui suppose en amont, et bien sûr en aval, mais en amont, c'est-à-dire lors de la préparation, un travail considérable sur le texte, sur l'auteur, et donc sur soi-même.
Oui, oui, c'est ça exactement.
Ça, vous n'avez jamais varié. Vous le saviez en entrant au conservatoire, vous l'avez enseigné de cette façon-là.
J'étais tout à fait contre l'avis de mes confrères à l'époque, qui étaient des esprits tout aussi intéressant que moi, ou tout aussi... Mais moi, je n'ai jamais dérogé de cette ligne. Je n'ai jamais pensé que c'est l'exaltation de soi-même à soi-même qui faisait l'acteur. J'ai toujours pensé que ce qui faisait l'acteur, c'est de bien comprendre ce que l'auteur avait voulu dire et faire. C'est ça, surtout. Le devoir de l'acteur, c'est de trouver la familiarité avec l'auteur. Et donc avec le rôle.
Rapport en général au metteur en scène Michel Bouquet. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous laissez guider? Vous parlez de votre rapport avec Jean Villard et la discussion que vous aviez eue à propos d'un personnage, en l'occurrence Hamlet de Shakespeare. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des conceptions très différentes de la façon dont un metteur en scène voulait monter une pièce et de vous être dit, moi je n'ai pas envie et j'ai une vision des choses qui est extrêmement importante à défendre?
Non, je pense que toutes les choses s'additionnent. Toutes les choses s'additionnent. Les plus contraires s'additionnent et trouvent leur logique. Toute expérience humaine trouve sa logique dans l'action même de vivre. Bon, non, pour moi, être en scène 2 heures, c'est vivre 2 heures. La vie du personnage, et peu importe la façon dont je le nourris, ce personnage, peu importe, pour le metteur en scène, tout est possible. C'est lui aussi fait son travail avec. Il faut demander à Georges la réponse. Moi, je ne l'ai pas, mais je sais que toute mon opinion sur un personnage change tous les jours. Elle change tous les jours. Et tous les jours, je m'adapte à la réalité de la vie. Et je le mets, ce personnage, en contact avec la réalité de la vie. Alors tout ce qui me choque dans la vie m'apporte quelque chose, une réponse. Une réponse. Et cette réponse, elle est simple. Je veux dire, c'est pas du tout intellectuel. C'est pas du tout intellectuel, c'est pas du tout intelligent, c'est autre chose.
Pourtant, en préambule de vos cours, vous disiez l'art de l'acteur, ce n'est pas de ressentir, mais de réfléchir.
Oui, c'est de réfléchir. Mais réfléchir, ça ne veut pas dire comprendre. Ça veut dire qu'on est en réflexion sur quelque chose.
On doute.
Ben oui, bien entendu, on doute tout le temps. D'une représentation sur l'autre, grâce à Dieu, on doute. Et grâce à Dieu, on éprouve le besoin de le refaire.
C'est la raison pour laquelle on peut le jouer
des centaines de fois,
recommencer chaque soir, tout en pensant que c'est la première.
Oui, ah oui. C'est exactement comme dans la vie. On a des rencontres dans la vie comme ça, on se dit, tiens, c'est comme ça, cette personne pense ça, elle a peut-être raison. Ah oui, non, elle n'a pas raison à cause de ça, mais peut-être que c'est toujours à refaire. Mais refaire, ça ne veut pas dire refaire la même chose. Ça veut dire faire avec un acquis. C'est tout à fait différent.
Michel Bouquet, ces cours au conservatoire qui paraissent aujourd'hui en double CD, est-ce que vous les avez réécoutés ?
Non. Non, je n'ai pas besoin de les réécouter.
Tout est encore présent.
Oui.
Donc vous les referiez de la même façon, puisque vous parliez de refaire ?
Certainement, oui. Mais je les referai avec d'autres alliances, peut-être, dans ma pensée. Avec d'autres alliances dans ma pensée. C'est certainement. Parce que je trouve des leçons dans ce que le public me donne avec le rôle, dans ce que je rate du rôle d'une soirée sur l'autre, dans ce que je réussis aussi. La représentation est un moment hors du temps, en quelque sorte, où on prend conscience d'où on vient, là où on va, et puis ça peut être démoli du jour au lendemain et recommencer autrement. C'est toujours un questionnement,
un éternel recommencement.
Oui, c'est un travail, quoi, c'est un travail.
Le théâtre est là pour faire comprendre aux gens le monde dans lequel ils vivent ?
Il s'est fait pour confronter la pensée d'un grand auteur avec leur pensée à eux, qui est quand même, malgré tout, fragile par rapport à la pensée de cet auteur. Alors, ils prennent encouragement, ils prennent en quelque sorte une leçon. Ils prennent une leçon parce que les grands esprits sont les grands esprits, et ça n'y peut rien, c'est comme ça. Ce qui est malhonnête, c'est de prendre la pensée d'un grand auteur, comme ça, et d'en faire quelque chose de normal, d'usuel. Alors moi personnellement, je trouve ça très grave, très grave. Sans ce travail, je veux dire, pour arriver à comprendre véritablement ce dont on parle et le confronter avec l'expérience qu'on a de la vie et l'honnêteté de le faire le plus profond possible.
Le comédien Michel Bouquet est pour vous un interprète,
oui,
de la pensée d'un auteur.
Bien sûr. C'est évident. Si on joue Harwood, on ne joue pas Shakespeare. C'est autre chose. Si on joue Ionesco, c'est un monde dans lequel il faut entrer, et dans lequel, je veux dire, il faut se familiariser, et c'est très long. C'est moi, j'ai eu besoin de 600 représentations pour arriver à jouer convenablement les 200 dernières. Et encore, je ne suis pas sûr d'y arriver, tellement c'est un monde particulier, c'est une logique particulière, c'est une façon de faire complètement différente. C'est roumain quand même, c'est roumain, et ce n'est pas français, c'est roumain. Il faut penser beaucoup à ça.
Il y a des modes de jeu quand même, de jeu naturaliste par exemple. On peut avoir des modes déclamatoires de jeu. Est-ce que ça a un sens pour vous, toutes ces façons de jouer qui marchent un temps? Alors, peut-être un peu plus au cinéma qu'au théâtre encore, mais... Et puis qui disparaissent,
oui,
ou
si on regarde,
c'est perdre de vue.
Si on regarde ce livre de Madame Segond Weber, par exemple, qui est très difficile à trouver maintenant, je l'ai prêté moi à quelqu'un et je l'ai plus chez moi. Mais j'ai beaucoup étudié ce livre qui est énorme, c'est un livre énorme, et on s'aperçoit que le monde de Corneille n'a rien à voir avec le monde de Racine, et pour elle, c'est une autre façon de jouer. Pour être fidèle à ce que Corneille demande. Et c'est très différent. Il y a de l'humour, il y a une espèce de causticité chez Corneille. Et les moments d'amour, par exemple du Cid avec Chimène, ces moments d'amour, cette rencontre de ces deux caractères, c'est plus shakespearien, si on veut, que Racine. Racine, c'est vraiment une musique. C'est vraiment une musique. Corneille, c'est vraiment une confrontation de personnages.
Et Molière, il reste le génie, l'humain parfait, Michel Bouquet, pour vous?
Oh, oui, c'est
C'est le mot que vous utilisiez dans un livre d'entretien, leçon de comédie.
Oui.
Molière, c'est l'humain parfait.
Ben, je trouve oui, parce que c'est l'humain avec ses faiblesses. Avec ses faiblesses, et pas l'humain qui se hausse, c'est l'humain qui se rabaisse, en quelque sorte, mais se rabaisse avec la grandeur qu'il y a, en étant un humain exceptionnel, d'arriver à se dissoudre, en quelque sorte, devant la vérité de la vie, devant... C'est ce qui est beau chez Molière, ça, c'est beau, c'est très noble. C'est ce qu'on peut faire de mieux dans le sens de l'humain, quoi. De la rareté de l'être humain, quoi. Qui fait ce qu'il peut. Qui fait ce qu'il peut, mais avec grandeur, avec... Oui, c'est très difficile de jouer Molière en pitre. Les gens qui le font... se font un mal énorme à eux-mêmes. C'est très, très... Le comique facile de Molière, soi-disant, cache des choses effrayantes de vérité. Et le fait de le prendre comique au premier degré, comme ça, c'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux.
Michel Bouquet, est-ce que... aujourd'hui, que vous continuez de jouer, que ce soit au théâtre et au cinéma, vous vous dites que le fait d'avoir appris tant de textes dans votre très longue carrière de comédien vous aide encore aujourd'hui? Ou est-ce que, avec le temps, les choses de la mémoire étant quelque chose qui est primordial pour un comédien, est-ce qu'avec le temps, vous diriez que les choses se sont aggravées ou qu'au contraire, votre métier vous aide à maintenir une certaine exigence et un certain niveau de mémoire,
mon métier
plus
m'oblige,
que d'autres.
Mon métier m'oblige. Mon métier m'oblige à tenir bon, et à tenir bon la rampe, et à essayer de gravir encore un petit degré du long chemin, de la longue escalade que représente le fait de comprendre. Comprendre, c'est toujours très difficile, et c'est toujours... c'est impropre à soi-même, comprendre. C'est très difficile de comprendre. Il faut être très humble dans le sentiment que L'humilité n'est pas une fin en soi, mais c'est une possibilité de continuer, quoi.
C'est une condition.
Oui, c'est une condition. C'est une possibilité de continuer, de pouvoir se dire, je peux recommencer demain. Il faudra que je recommence demain et que j'essaie de comprendre mieux. Personne ne comprendra le monde, même pas le plus grand esprit du monde ne le comprendra. Personne ne le comprendra, le monde. Et donc, pourquoi se dire qu'on va le comprendre ? Non, on ne le comprend pas. On le comprend par fragmentation, comme ça. La masse des gens qui est là est très importante, n'est-ce pas ? Elle est très importante qu'on joue, par exemple, dans un petit théâtre de rien, avec des gens qui sont là, comme des égarés, qui ne comprennent pas ce qu'ils vont entendre, etc. C'est très important. C'est très important d'arriver, si vous dire, à se dire ensemble, on n'y comprend rien, mais c'est beau. Le théâtre est fait pour... Il n'est pas fait pour convaincre, il est fait pour fasciner. Les gens viennent là et puis se disent, on n'est pas seul. Tel auteur qu'on aime bien, il a souffert aussi. Alors le plus près possible qu'on peut être de la vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand même. Donc il ne faut pas intellectualiser ce qui est intelligent. Ce qui est intelligent, il faut le laisser agir par lui-même, mais sans mêler beaucoup. Par contre, il faut respecter en soi l'humain et la personne que l'on est, il faut la préserver aussi. Il faut la préserver de l'injustice, de l'inhumanité, de toutes sortes de choses. Il faut l'améliorer pour qu'elle soit digne de représenter l'humain qui est dans la salle.
Merci beaucoup, Michel Bouquet.
They saw the way to look, the pride, the misplaced dignity, being a lover, to not tomorrow see.
Le coffret de 2 CD est donc réalisé par Georges Verlaire, est édité par Frémaux et Associés, et je rappelle le titre du film d'Eli Chouraki, sorti cette semaine dans lequel joue Michel Bouquet, L'origine de la violence, d'après le livre de Fabrice Imbert. Prise de son, Alexandre Abergel, réalisation, Philippe Baudouin. Dans un instant, c'est le journal et la suite de La Grande Table.
Off the chicks.